Améliorer la qualité du code informatique n'est pas forcément dans le viseur des développeurs qui ont vite fait de sortir le fameux adage « It's not a bug, it's a feature ». Ce n'est pas un bug, c'est une demande de nouvelles fonctionnalités. Et pourtant, l'intelligence artificielle, encore elle, peut aider. C'est un peu une mise en abîme, le code qui contrôle le code, qui aide à améliorer le code. Il y a de quoi s'y perdre. Pour éclairer votre lanterne, je me suis tourné vers une jeune pousse française, Ponycode, qui s'est lancée dans une croisade pour améliorer la qualité des développements IT. J'ai donc interviewé Christophe Shaw, son Chief Revenue Officer, pour parler d'intelligence artificielle et d'amélioration de la qualité du code informatique. Pour ne rien gâcher, Christophe est lui-même développeur et il sait de quoi il parle. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié. Améliorer la qualité du code grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons parlé déjà à plusieurs reprises de low-code et de no-code. Il est donc temps de reparler de développement tout court, car c'est encore un sujet d'actualité. Après 76 ans d'industrie informatique, malgré beaucoup d'évolutions dans les processus et dans l'approche de la qualité, il y a encore pas mal de bugs aujourd'hui dans les logiciels qui sont commercialisés. Même les systèmes d'exploitation des meilleures entreprises IT américaines sont encore criblés de bugs et d'erreurs, souvent dus à un environnement IT dont la complexité multiplie l'empilage des couches et par voie de conséquence des interdépendances, des incompatibilités et des problèmes, mais aussi à la négligence et à la bonne vieille régression logicielle. Et les coûts sont énormes, comme l'indique l'infographie de la société des tests informatiques unitaires TapeMock que nous allons utiliser ici pour illustrer notre billet. Alors, je suis avec Christophe Shaw. Christophe, vous êtes Chief Revenue Officer. Alors, vous êtes Chief Revenue Officer, mais vous faites un peu de tout, en fait. Vous codez aussi.
Oui, c'est ça. Bonjour, Yann. Merci de me recevoir, de m'accueillir aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis Chief Revenue Officer chez Ponycode. Donc, je m'occupe beaucoup des aspects business, en fait. Mais Ponycode, c'est une société qui s'adresse aux développeurs et avant tout, enfin, presque exclusivement aux développeurs. Et donc, finalement, ça nécessite, pour un dialogue permanent avec les clients, d'être soi-même plutôt dans ce monde-là et du monde développeur, ce qui est mon cas. Et effectivement, c'est ce que je continue à faire. C'est ma passion depuis longtemps. Et je ne désespère même pas d'avoir un peu de code à moi dans Ponycode un jour.
Très bien. Une expérience intéressante, riche et très pragmatique. Et justement, on va parler de développement aujourd'hui, on va parler de qualité de développement. Mon Dieu, c'est un sujet tabou, ça.
C'est tabou, je ne sais pas si c'est tabou. Je crois que, en tout cas, c'est un sujet d'actualité. On voit aujourd'hui qu'après 50 ans d'industrie informatique, bon an, mal an, on est encore dans un monde où les anomalies, les bugs, quel vilain mot, sont toujours présents. Et ce, malgré, je dirais, voilà, beaucoup d'évolutions dans les processus, dans l'approche de la qualité. Il y a encore beaucoup de bugs aujourd'hui dans les logiciels qui sont commercialisés. Oui.
Pourtant, moi, on m'avait expliqué qu'avec la méthode agile, tout était résolu. Alors, a priori, non.
Non, je crois que c'est hélas pas une question de méthode. Je crois que le code informatique, c'est une production humaine. Mm-hmm. C'est-à-dire que finalement, le développeur, il produit son code, tout seul. Non, il est contrôlé, etc. Mais quand même, c'est une production humaine et que, en tant qu'humain, on est faillible. On est faillible et donc, de temps en temps, il y a quelque chose qui échappe à l'attention des développeurs, puis à l'attention du testeur qui suit. Et qui fait que, il y a des choses, il y a des résidus qui se propagent et qui ont parfois des conséquences dramatiques. Les grands bugs de l'histoire de récente, il y en a quelques inconnus. Il y a l'explosion de la fusée Ariane 5, la première, il y a une quinzaine d'années maintenant, je pense, qui est due à un bug dans la centrale inertielle. Et si on se rapproche un peu plus près de nous aujourd'hui, la fameuse affaire SolarWind, qui est à l'origine de la compromission de données dans beaucoup d'entreprises majeures et au sein de gouvernements, Elle est liée à un bug dans le logiciel, ben voilà, de l'entreprise SolarWind, qui n'avait pas vu une faille de sécurité. Donc ça a parfois des conséquences qui sont effectivement extrêmement importantes, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le reste du monde.
Donc ça, ce sont des exemples emblématiques, un peu cataclysmiques, mais en fait, au jour le jour, il y a des bugs qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui sont tout aussi énervants.
Oui, c'est sûr. Ça, heureusement que tous les bugs n'ont pas ce type de conséquences, mais c'est vrai qu'on a tous constaté sur nos services favoris ou nos applications favorites sur nos téléphones, de temps en temps, un crash, quelque chose qui ne se comporte pas comme on veut, etc., et qui sont effectivement extrêmement agaçantes. Ce qu'on voit aujourd'hui, à cet égard, justement, je crois qu'il y avait c'était un chiffre de Google qui disait que 73% des utilisateurs ne s'arrêtent pas à la recherche de la cause. Quand ils ont un bug quelque part, ça ne fonctionne pas comme ils veulent, ils s'en vont et ils vont ailleurs. Et ça se comprend, je veux dire, voilà, ça ne fonctionne pas, je vais ailleurs. Et c'est 73% des utilisateurs qui disent, bah, moi, dans ces cas-là, bah, je vais chercher le service ailleurs.
Alors, sauf quand on est sur le site des impôts, bien entendu.
Certes, mais ça, c'est monopolistique, c'est un peu différent comme approche, on n'a pas vraiment le choix.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette qualité de code et qu'est-ce que vous avez conçu justement chez Ponycode à ce sujet?
Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, la faillibilité du code, elle est intrinsèque à la faillibilité de l'esprit humain, finalement. On fait toujours des petites erreurs. Et donc, si on regarde, comment est-ce qu'on peut finalement aider le développeur à faire moins d'erreurs, ben, finalement, c'est probablement au travers d'outils. Et les outils, c'est quoi? C'est son environnement de développement, c'est j'allais dire d'ailleurs le logiciel avec lequel il écrit du code, qui a très très peu évolué depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écrit du code à peu près comme on écrivait du code il y a 20, voire il y a 30 ans, c'est-à-dire tout seul en face de la machine avant de lancer un compilateur. Alors, évidemment, la productivité a augmenté grâce à l'outillage. Je parlais de compilation à l'instant, il y a 25 ans, quand j'ai débuté en tant que développeur, quand je lançais une compilation, j'avais le temps d'aller boire un café, puis de revenir et puis de regarder le résultat. Aujourd'hui, j'ai une compilation instantanée, mon éditeur de code me dit instantanément si mon code est syntaxiquement correct, etc. Il y a des choses comme ça qui ont avancé. Deuxième sujet, par exemple, deuxième grande avancée qu'on a pu voir, c'est ce qu'on appelle IntelliSense, c'est-à-dire la capacité à aider le développeur à écrire le bon code avec en appelant les bonnes API, il n'y a pas besoin de se souvenir de l'orthographe exacte, en appelant les bons paramètres sur ces bonnes API, bien sûr. Mais finalement, ça reste toujours une personne qui écrit son code et qui est peu assistée pour savoir si son code est robuste, sécurisé et tolérant aux fautes. Et donc, la grande idée de Ponycode, c'est de dire que l'intelligence artificielle, oui, je sais, je vais y revenir, mais je parle vraiment d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut aider le développeur dans ses tâches quotidiennes, c'est-à-dire peut l'aider à détecter plus vite de potentielles anomalies dans son code. Voilà, et c'est vraiment ce qu'a fait Ponycode, c'est de mettre les réseaux neuronaux, puisque c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, au service de la qualité du code et de, j'allais dire, la vélocité des développeurs pour qu'ils puissent se sentir plus sécurisés dans l'écriture de leur code.
Donc on a parlé d'IA, vous avez dit qu'on allait y revenir, on parlait de réseaux neuronaux, donc revenons-y.
Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, Ponycode, le premier use case qu'on met en œuvre, c'est d'aider les développeurs à écrire des tests unitaires, c'est-à-dire la plus petite unité de test qui soit, mais celles qui entraînent les régressions potentielles majeures, parce qu'on peut avoir quelque chose qui se cache au sein d'une fonction. Et donc, en fait, on génère à la place de l'utilisateur, du moins avec l'utilisateur plutôt qu'à la place d'ailleurs, des tests unitaires qui lui permettent de screener chaque ligne de code quasiment. Et pour ça, en fait, on a utilisé une intelligence artificielle, effectivement, qui, en scrutant les meilleurs repositories de code du monde, donc notamment des codes open source, a pu déterminer finalement quelle était la recette du test en quelque sorte. Et donc on a entraîné un modèle qui permet de deviner les paramètres qui permettent de couvrir l'ensemble du code de la fonction. Alors, il n'y a pas forcément qu'un seul test, en l'occurrence, on peut avoir besoin de générer plusieurs tests, mais c'est ce que fait Ponycode. Et donc, ce modèle, il est basé sur des réseaux neuronaux que l'équipe de Ponycode travaille tous les jours. Voilà. Et quand je vous parlais d'IA, aujourd'hui, chez Ponycode, on a plus de data scientists que de développeurs.
Et donc en fait, ce qui fait la force de cet outil, c'est finalement cette base de connaissances que vous avez acquise en fait.
Alors, comme toute intelligence artificielle, en quelque sorte, je dirais, il
Bien
faut
sûr.
deux composants essentiels. Un, c'est des data scientists talentueux. Ça, on en a chez Ponycode. Et deux, il faut des données d'entraînement.
Oui, alors comment on
Euh, et
fait pour...
effectivement, des données d'entraînement qui soient les plus exhaustives possibles et les plus représentatives du monde que l'on recherche à atteindre possible. Le monde qu'on recherche à atteindre, c'est un monde de qualité parfaite, alors qui est évidemment lui-même parfaitement inatteignable, mais le plus possible. Donc, en fait, on s'est basé sur les notations dans GitHub, en l'occurrence, des repositories de code par les développeurs eux-mêmes en termes de qualité. Donc, on a pris comme base d'entraînement les meilleurs repositories de GitHub.
Alors, comment ça marche concrètement?
Alors, concrètement, en fait, si on regarde qu'est-ce que c'est qu'un test, c'est une série de paramètres qui vont être envoyés dans une fonction pour obtenir un résultat attendu. Et donc, concrètement, ce que fait Ponycode, c'est qu'il devine quels sont les bons paramètres qu'il faut envoyer pour couvrir le code qui est exécuté par une fonction donnée. Et donc, pour ça, on va d'abord deviner le type de ce paramètre, de quoi s'agit-il, quelle est sa structure. Et ensuite, on va deviner à l'intérieur de cette structure quelles sont les valeurs qu'il faut donner aux éléments qu'on appelle scalaires à l'intérieur de la structure, c'est-à-dire les plus petits éléments qui peuvent être un nombre, une chaîne de caractères, etc. Donc, Ponycode fait tout ce travail et va deviner en quelque sorte là aussi que quand dans une fonction, un paramètre est un email, eh ben, on va lui passer une chaîne de forme email toto at titi.com, voilà. Mais également évidemment lui passer une chaîne de caractères qui n'a pas ce format-là pour voir comment la fonction se comporte quand elle ne reçoit pas les bons paramètres, par exemple.
Mais alors, moi, de mes années de développement, parce que j'ai fait un peu aussi, bon, ce n'était pas du code compilé, c'était du code interprété en L4G sur des mainframes, mais bon, ça faisait la même chose.
Ouais, c'est
Le
ça.
résultat était le
Ça n'a pas
même.
beaucoup changé.
Non, pas vraiment. Et de mes souvenirs, oui, effectivement. Mes camarades développeurs étaient très très bons pour tester, pour faire les tests individuels. Mais alors, quand on mettait toutes les fonctions à l'intérieur du programme complet et qu'on faisait le test d'intégration, là, poum, tout partait en vrille.
Oui.
Donc, il y a une partie qui est quand même très importante, c'est sur l'intégration.
Alors, il y a deux éléments par rapport à ce que vous me dites. C'est effectivement, d'abord, l'intégration, c'est évidemment fondamental parce que c'est le produit fini. Donc, c'est ça qui compte à l'arrivée. Mais il y a une partie qui est très processus. Et comment est-ce qu'on améliore finalement les processus de collaboration entre équipes pour qu'au moment de l'intégration, il y ait le moins de mauvaises surprises possibles. Et d'ailleurs, si on regarde par rapport à l'industrie lourde, entre guillemets, notamment l'industrie automobile, ça a été une bonne partie du travail qui a été fait dans les années 80 sur comment est-ce qu'on s'assure tout au long de la chaîne de fabrication d'un véhicule du zéro défaut par justement l'amélioration des processus de collaboration et qui font qu'il n'y a pas de surprise, on n'arrive pas à devoir visser un truc alors qu'il n'y a pas de trou, si je puis dire, quelque part. Donc ça, j'allais dire, c'est la méthodologie qui va y répondre et j'allais dire, la qualité des contrôles qu'on met en place. Et puis le deuxième aspect de ces tests d'intégration, en fait, c'est un aspect un peu différent qui est de dire que voilà, les défauts proviennent de défauts des composants individuels et de l'interaction entre ces composants. Et donc ça, c'est aussi un aspect de ce qu'on a fait chez Ponycode. On s'est rendu compte que même si les tests unitaires au plus bas niveau avaient leur importance, on ne pouvait pas les décorréler justement de ces tests d'intégration. Et donc, une des choses qu'on fait, c'est qu'on est capable d'enregistrer le fonctionnement d'une application, d'intercepter tous les paramètres qui passent sur toutes les fonctions, pour ensuite réinjecter ces paramètres dans les tests unitaires. Et ça permet effectivement de transformer en tests unitaires des sessions entières qui ont été effectuées par les utilisateurs réels, et de dire que si à un moment, il y a une divergence entre les tests unitaires faits par le développeur et ces tests unitaires générés à partir des tests d'intégration, c'est qu'on a effectivement un problème quelque part. Donc là aussi, on peut aider par l'outillage et par l'assistance des utilisateurs, des développeurs.
Alors, si je veux être un peu provocateur, ce que j'entends, c'est qu'il y a un outil ici qui vient automatiser, je dirais, un support, un processus qui reste quand même essentiellement manuel, essentiellement humain. C'est bizarre parce que moi, ce que j'avais compris, c'est ce qu'on m'avait vendu, c'était low code, no code, on appuie sur un bouton et floc, et on a une application. Ça n'a pas l'air d'être le cas, finalement.
Ouais, je crois que, enfin, y a aucun doute que le low code, no code répond à un besoin, répond à quelque chose qui est, on veut faire en sorte de diminuer en fait le coût de développement. C'est-à-dire, dire finalement, quand je veux faire quelque chose de simple, ne pas avoir à le faire en C++ et en assembleur, c'est quand même plus pratique pour tout le monde. Et donc, ça permet en fait de démocratiser la création d'applications pour que des gens qui ne sont pas des spécialistes des langages de développement puissent le faire. Alors maintenant, imaginez que le low-code, no-code va couvrir tous les besoins de développement dans le futur. C'est un pari que je prends personnellement, mais un, je pense qu'on en est très loin, deux, je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que finalement, l'interaction avec une machine a parfois besoin d'être optimisée. Que deuxièmement, on ne peut pas toujours tout décrire. Les interactions, notamment sans, ben voilà, sans écrire du code. Et donc, voilà, ce besoin-là ne va pas disparaître. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui, j'allais dire, chez tous les grands éditeurs, la part du low-code, no-code est inférieure à 10% de l'ensemble des logiciels produits dans le cadre de leur gamme de produits.
D'accord. Ok, donc c'est pas encore pour tout de suite,
Non, je pense qu'il faut,
mais.
encore une fois, c'est quelque chose d'utile. La promesse qui serait de dire demain, il n'y aura plus que du low code, no code, voilà, on n'en est pas là du tout.
D'accord. Mais est-ce qu'on peut, en revenant sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure, imaginer qu'un jour l'informatique devienne enfin industrielle? Marqué ce jour-là, on n'aura peut-être plus grand-chose à raconter.
Si, je crois que c'est un besoin, c'est clair. L'informatique, elle devient critique dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, une voiture, ça embarque de l'informatique dans plus de 200 processeurs. Ces processeurs, ils sont programmés. Demain, et même aujourd'hui, nos médicaments font participer du numérique dans leur conception. Et Dieu merci, on a bien vu, c'est ça qui a permis de produire un vaccin dans un temps record dans le cadre de la crise qui nous concerne tous aujourd'hui. Donc, ça devient absolument prégnant dans toutes les industries. Donc, bien sûr qu'il faut aller dans un sens d'amélioration. Cette révolution, elle a été faite dans l'industrie, dans les années, dans l'industrie automobile, par exemple, encore une fois, dans les années 80-90. Mais si on regarde, c'est 100 ans après la naissance de cette industrie.
D'accord.
Elle est née dans les années 1870-1880. Voilà, il a fallu 100 ans avant qu'on ait un degré de maturité dans la qualité qu'elle a. On peut espérer que dans
Ouais.
l'informatique, on aille plus vite, mais finalement, c'est assez normal. On est dans une industrie qui
Ouais.
est jeune. Voilà, elle n'est pas encore aboutie, elle n'est pas encore
D'accord.
mature. Et voilà, on va dans cette direction-là, bien sûr.
Faut dire quand même que Henry Ford avait quand même fait des pas assez importants dès le début du XXe siècle, quand même.
Ah, mais
Ouais.
ça va étape par étape. C'est
Ouais.
bien ça. C'est-à-dire que l'étape Henry Ford, certainement, a un prix d'ailleurs, parfois peut-être discutable humainement parlant. Ça va étape par étape. On a franchi des étapes, évidemment, dans le monde de l'informatique, mais c'est juste de dire que, voilà, on est encore une industrie jeune. Il y a encore des défauts dans les processus, dans les outils, et c'est ça qui va s'améliorer. Maintenant, encore une fois, je suis convaincu que cette direction, elle est inévitable. Et cette révolution, elle est inévitable dans les années à venir, compte tenu de la criticité des composants informatiques et numériques dans tous les produits qui sont aujourd'hui conçus dans le monde.
Une petite dernière question pour la route. Pourquoi Ponycode?
Oh
On a besoin de
là
monter
là
sur
là
un
là là.
poney ou...
Ah là là, ça il faut demander à Patrick. Non, à Patrick Jouvert qui est le CEO de Ponycode. Non, je crois que l'anecdote veut que un jour, en discutant avec un grand un grand de la tech aux États-Unis, en parlant des entreprises françaises et de la capacité d'innovation des entreprises françaises dans le monde de l'IT, son interlocuteur lui a dit ouais, en France, vous avez des trucs géniaux, mais vous les faites jamais devenir grands. You don't have unicorns, you have ponycorns. Et Patrick l'a pris au mot et lui a dit, OK, ma prochaine entreprise s'appellera Ponycode. Et d'ailleurs, voilà, c'était pas le nom original de Ponycode, hein, c'était pas le nom de code de Ponycode, justement, avant que l'entreprise n'existe.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.